On part dans une technique avec un cheval aussi bien de dressage que de travail, il ne faut pas douter, il faut être sûr de soi. Donc il ne faut pas douter de ça. On peut douter sur d'autres choses dans la vie, mais au moment où on est derrière un cheval, on ne doit pas douter. Ça arrive qu'on a un cheval très difficile, par exemple dans le dressage, dans le débourrage, qui nous remet complètement en cause, où on perd complètement nos moyens, où tout d'un coup on peut être remis en cause complètement par un cheval. On se dit, mais je suis un débutant, je ne sais plus comment faire.
Des chevaux et des hommes. Une émission dont la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine, en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Un entretien avec Florent Dalloz, débardeur à cheval. Florent Dalloz est débardeur à cheval. Basé dans le Jura, il travaille dans les forêts de tout le sud-est de la France, mais surtout en Rhône-Alpes, avec un, deux ou même trois ou quatre chevaux. Lors de notre conversation, nous avons surtout voulu comprendre la relation entre homme et cheval, comment elle se met en place, comment on arrive à cerner le caractère, la nature des chevaux et à créer une complicité. Il parlera également de la formation de jeunes et de son implication dans des associations de débardeurs dont il fait partie, Débardage Cheval Environnement et l'association Rhône-Alpes Traction Énergie Animale. Florent Dalloz.
En gros, je suis entrepreneur de travaux forestiers. Mais dans l'exploitation, sur les chantiers, on utilise les chevaux plutôt que le tracteur par rapport à une idée écologique, environnementale et puis aussi de passion du cheval pour le plaisir parce qu'on a un grand plaisir de travailler avec les chevaux et que c'est un outil finalement intéressant si on sait avoir des attelages dressés spécifiquement pour ce genre de travail. Voilà. Il y a toute une préparation là autour, c'est pour avoir des chevaux aptes à ce travail.
En même temps, tu dis voilà écologique, mais en fait pendant des siècles, c'était la façon qu'on a travaillé dans la forêt. Je veux dire, c'était avant les tracteurs. C'est quelque chose qui a été développé à l'époque, non? Avec aussi sans doute des machines, peut-être moins adaptées que maintenant, mais...
Oh ben complètement, c'était l'outil de traction utilisé, mais pas que le cheval, il y avait aussi beaucoup les bœufs. Et après, avec les années 50, avec la motorisation, surtout la motorisation, plus que la mécanisation, ces outils-là, tout ce qui se faisait travail en traction animale a disparu petit à petit et depuis début des années 90, il y a un certain nombre de gens en France et aussi en Allemagne, en Belgique, je ne sais pas où, en Suisse, qui ont essayé de remettre les chevaux ou les animaux de traction au travail, en gros, et là pour nous plus particulièrement en forêt. Et donc ça, il y a eu beaucoup de tâtonnements et de choses compliquées parce qu'on ne maîtrisait plus les techniques. Il a fallu remettre tout ça en route et être de plus en plus compétent et de mieux en mieux connaître les animaux pour pouvoir travailler correctement avec.
Justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait une rupture vraiment entre les gens qui savaient dans le vieux temps, si on veut, et des gens comme toi qui ont repris?
Oui, il y a eu une rupture, ça c'est sûr. Il manque un maillon et... On a eu du mal justement à se remettre en route à cause de ça, parce qu'on manquait d'éléments, on manquait de comparaisons, il y a eu un trou. Et après, par différents biais, on est allé récupérer des techniques. Entre autres, nous, on s'est beaucoup servi des débardeurs belges qui, eux, avaient relancé la traction animale beaucoup plus tôt et qui n'avaient pas perdu certaines traditions, en tout cas certaines techniques et une certaine maîtrise d'un attelage. Donc ça nous a aidé à repartir sur des bonnes bases.
Pourquoi en Belgique ils avaient commencé avant? Qu'est-ce qui les a amenés à reprendre ça?
Je donne l'exemple de la Belgique parce que je le connais bien. Après, il y a eu aussi en Suède, dans d'autres endroits, ils ont continué à utiliser la traction animale. Mais en Belgique, tout simplement que les pouvoirs publics se sont décidés plutôt à préserver leur race de chevaux et de faire beaucoup plus attention à la forêt que nous, leur façon d'exploiter. Et donc, il n'y a pas eu de rupture. Ils ont su utiliser les chevaux de génération en génération. Et ils l'ont mieux préservé que nous, voilà. Et bon, il se trouve que par hasard, on a eu des contacts avec les Belges. C'est grâce un petit peu aux Belges au départ qu'on a relancé aussi la technique de conduite du cheval, notre façon de mener les chevaux qui sont différentes qu'une façon classique, voilà. Et après, bon, on s'est débrouillé pour réfléchir, réfléchir aussi autour du dressage du cheval, mieux comprendre le cheval, avoir puis aussi du matériel. On a relancé beaucoup de petites choses au niveau du petites choses ou grosses choses qu'on a réadapté, qu'on a transformé en servant du matériel ancien, mais qu'on a réactualisé ou qu'on a remodernisé pour en faire quelque chose de plus pratique, de plus confortable à mener, aussi bien pour les animaux que pour les hommes.
Si on parle de la compréhension quelque part entre les hommes, si on veut l'appeler comme ça, ou pour les femmes quand même, et les chevaux, je veux dire, déjà les hommes, parfois ils ont du mal à se comprendre entre eux, mais là il y a les chevaux et les humains, a priori, ça semble pas évident, mais on voit que parfois vraiment il y a une sorte de, bon, quand on te voit travailler d'ailleurs, une espèce de relation, une compréhension incroyable qui peut se développer. Alors comment tu abordes ça ? Quand toi, par exemple, tout à fait au début, ou quelqu'un comme toi veut démarrer, comment tu abordes ça ?
Ben, au début, quand j'ai démarré, avant de me relancer vraiment, de redévelopper mon métier artisanal, ben, j'ai beaucoup tâtonné. J'ai essayé tout seul et puis je me suis aperçu que ça n'allait pas du tout. Donc j'ai essayé de me former d'un côté et aussi d'être en contact avec des gens justement qui avaient cette maîtrise, dont particulièrement les Belges, pour apprendre à maîtriser la technique, apprendre à conduire un cheval. Et au fil des années, on a essayé de se poser la question, justement, d'avoir une meilleure relation, une meilleure compréhension avec le cheval. Donc, d'améliorer nos techniques de dressage, de mieux comprendre le comportement du cheval, tout simplement, tout ça. Et essayer de l'utiliser dans le confort, en lui demandant des choses difficiles, mais une façon, avec un doigté, une façon un peu plus réfléchie pour mener les chevaux. Ça, on a peut-être avancé un petit peu plus là-dessus que les anciens.
A priori, il y a une sorte de langage des humains vers les chevaux qui est partout à peu près pareil. C'est-à-dire que, je prends l'exemple des chiens bergers, il y a certaines phrases que souvent on utilise, et après le chien, il arrive à comprendre. Mais est-ce qu'en Belgique, en France, bon, francophone, est-ce que là, un peu partout, on va retrouver les mêmes gestes ou les mêmes phrases? Ou est-ce que chacun développe quelque part son langage?
Non, en gros, il y a deux ou trois façons de mener les chevaux qui sont homogènes. Après, les ordres peuvent changer d'une région à l'autre, d'une personne à l'autre, parce qu'il veut utiliser des ordres différents, mais des ordres qui ont permis au cheval. Il s'est débrouillé pour que le cheval, dans le dressage du cheval, que le cheval comprenne ses ordres. Après, les ordres peuvent être différents, mais la base est la même. Voilà. On peut dire un ordre en français ou en allemand, mais la même façon de le donner, la même façon de placer l'ordre. Ça, c'est sûr qu'il y a une façon homogène de travailler autour des chevaux. Bon, c'est vrai qu'on a gardé quelques mots de Wallonie pour dresser les chevaux, parce qu'on est plus ou moins passé par les Belges, et puis il y a certains sons qui allaient très bien pour l'oreille du cheval, donc on les a gardés, mais c'est pas ça la règle. La règle, c'est la façon dont on mène le cheval.
Tu peux donner des exemples ?
Ben, c'est la façon au départ dont on l'éduque, qu'on cherche à le mettre en confiance, en avoir une relation, que le cheval ait une relation respectueuse avec nous. On essaye, nous, de décoder son sens cheval à lui. C'est nous qui essayons de décoder comment est le cheval, et pas le contraire, parce que lui, il ne comprend pas notre monde. Et donc nous, on essaye de s'adapter et de resserrer quelque chose autour de lui, voilà, jusqu'à qu'il ait compris les choses correctement. Mais nous, la priorité, c'est nous devons déchiffrer son comportement et sa façon d'être pour arriver à travailler avec. C'est ça le plus important.
Est-ce que tu as l'impression que le cheval, après un certain temps, bien sûr, avec toi ou quelqu'un, finalement comprend ce que nous, on veut faire? Qu'est-ce que c'est ce travail dans la forêt? Ah oui, il y a les bois qu'il faut sortir. Est-ce que le cheval, quelque part, a une conception arrive à comprendre un tout petit peu ce qu'on est en train de faire, ou est-ce que c'est plutôt des ordres assez simples, disons gauche, droite, en avant, en arrière, ou je sais pas quoi, et en fait le tout dépasse quoi, le cheval.
Ben, je pense que l'ensemble, ça dépasse le cheval. La gestion d'un chantier, ça ne concerne pas le cheval. Mais toutes les petites choses répétées tous les jours, au départ, ça doit presque être un peu comme un jeu. C'est-à-dire qu'il le fait volontiers, il apprend à être adroit, à être précis, parce que ça l'intéresse aussi d'être comme ça. C'est un petit peu par ça qu'on avance. C'est-à-dire qu'il faut que le cheval il ait envie de le faire. Et il y a des choses, une fois qu'il les a compris et répétées, il les fait parfaitement, parce qu'il a parfaitement enregistré tout ça, le milieu dans lequel il intervient, la façon dont on va se placer, tout ça, et il arrive à le faire très, très simplement et facilement, parce que ça l'intéresse aussi, il est assez réceptif, il a envie. En fait, c'est un petit peu, on pourrait dire au départ, comme un jeu, mais un jeu qui devient assez précis, assez carré, voilà, tout simplement. Après, dans la gestion globale, le cheval ne va pas s'intéresser à ça, ça le dépasse, mais ce n'est pas une question d'intelligence, c'est que le monde cheval n'est pas le même que le nôtre, c'est tout. Nous, on a aussi des règles économiques, des règles machin, dont les chevaux n'ont pas grand-chose à faire, quoi.
Mais est-ce que, par exemple, le cheval, quand tu lui demandes un grand effort, après tu le récompenses, est-ce qu'il a la demande de la récompense?
Il n'a pas la demande de la récompense, mais il va l'apprécier, parce que justement, si on le mène loin dans l'effort, et à un moment, on va lui demander de s'arrêter, de se reposer, de prendre son souffle, ce qui va l'intéresser, le cheval surtout, c'est son confort. À un moment, si on va trop loin dans la dureté, il va être mal, et donc il l'acceptera moins bien, parce que pour lui, ça va au-delà de son confort, et au-delà de ses capacités physiques. Donc c'est ça qu'il faut respecter. Il faut savoir jusqu'où il peut aller dans l'effort, aussi bien quand on monte une longue côte, savoir s'il faut faire une petite pause en pour qu'il reprenne son souffle, ou sur une journée de travail, si au bout de 7 heures, dans la 6e heure, il faudra prendre moins de poids et aller plus tranquillement, parce que pour finir la journée, il va commencer à être dans le dur, on pourrait dire ça, dans le dur physiquement. Et c'est là que l'œil du meneur intervient, de bien sentir son cheval, de savoir jusqu'où il peut aller dans le physique, et même dans la difficulté des ordres. Parce que, si je prends l'exemple pour un jeune cheval, si on lui donne des ordres trop compliqués, on lui fait faire des manœuvres trop compliquées les premiers mois de débourrage, des fois, il n'aime pas. Parce que entendre des ordres, droite, gauche, devant, derrière, un pas sans arrêt, au bout d'un moment, il peut péter un plomb en parlant. Voilà, donc il faut savoir doser tout ça. Et c'est toujours par rapport au confort du cheval. Si le cheval il est confortable, qu'il a fait un bon travail, on sait l'arrêter quand il faut, une flatterie derrière, il est réceptif à ça, complètement. Mais si on ne sait pas juger ça, qu'on le fait tirer mal, c'est-à-dire on va faire une traction qui est heurtée, qui n'est pas confortable, quelqu'un saura faire glisser un bois derrière un cheval, et une autre personne ne saura pas, va aller buter dans une souche. Et le cheval, après, va perdre confiance petit à petit, parce qu'il y aura des chocs, parce que le meneur n'est pas suffisamment fin ni attentif pour mener son cheval. Et là, le cheval peut se dérégler et commencer de moins en bien, moins bien, et petit à petit à ne plus vouloir faire le travail comme il faut. Quand on va mettre le collier, on va sentir des réticences, quoi. Il va commencer à nous montrer qu'il n'a plus envie de ça. Et si on sait le mener correctement, dans la fluidité, dans la souplesse, tout en lui demandant des gros efforts, il va être capable de nous le donner. Avec, bien entendu, il faut aussi tenir compte de chaque animal. Ils sont comme nous, ils ont chacun leur caractère, chacun leur réaction, particulière aux équidés, mais avec chacun la leur quand même. Voilà.
Mais quand tu disais que c'était un peu un jeu au début, pour le cheval, oui. J'imagine qu'il y a quand même aussi l'aspect que le cheval aussi sent que telle ou telle manière d'agir est moins de travail pour lui. Enfin, que ça. Voilà, c'est plus agréable.
Exactement, donc c'est encore le meneur, une fois qu'il doit savoir doser, jusqu'où aller, dans cette souplesse, dans cette façon de mener, il doit savoir être suffisamment observateur pour savoir comment gérer son animal. Mais c'est vrai qu'au départ, ça doit être plutôt comme un jeu, ça doit plutôt l'intéresser. Parce que quand ça ne l'intéresse plus et qu'on l'oblige à faire quelque chose qu'il n'aime pas, ça devient compliqué. On joue tout le temps là-dessus. C'est ce qui est justement délicat avec le caractère des animaux, que ce soit peut-être avec des bovins, ou moi je connais moins, mais je pense que le gros nœud du problème, il est là.
Donc il y a une espèce de confiance qui s'instaure entre le meneur et le cheval. Est-ce que du coup, un cheval, il peut travailler avec plusieurs personnes ou il aura ses préférés ou comment ça se passe?
Il y a une relation de confiance, c'est absolument certain. Si le cheval se sent... Il y a une relation de confiance, une relation de hiérarchie en même temps. C'est-à-dire que dans la hiérarchie, quand je conduis mon cheval, si je me mets dans la hiérarchie du troupeau de chevaux, je suis juste le dominant au-dessus de lui. Mais le dominant respectueux. C'est-à-dire, il sait que je lui demande, mais je ne lui demande pas des trucs tordus, ni je ne lui fais pas de coups tordus. Et voilà. Et à partir de là, il va me respecter et on va tâcher de garder cette hiérarchie. Après, il peut changer éventuellement de main. Alors, s'il est avec des mains moins expérimentées, c'est certain que le cheval peut se dérégler. C'est-à-dire qu'il peut être moins attentif. Donc, il va perdre en précision, il va jouer un peu plus, puis il va essayer petit à petit de... comme on dit, d'éjecter le meneur, de dire, bah ouais, au bout d'un moment, c'est bon, ça va, toi, j'ai... Alors, s'il a quelqu'un de plus expérimenté, qui est plus rigoureux, il va facilement accepter les ordres, parce que la personne est aussi précise, soignée derrière lui. Mais ça va très, très vite, même un cheval qui a des fois des années de travail, peut se dérégler au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, avec un meneur qui n'est pas suffisamment compétent ou précis, sensible, voilà. Voilà, ça c'est sûr, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs dans les gens qui démarrent dans le trail avec les chevaux, c'est qu'ils n'ont pas assez de repères eux-mêmes pour savoir mener leurs chevaux proprement avec des chevaux qui évoluent jusqu'à un certain niveau, et souvent ils n'arrivent pas à ce niveau, et souvent même les chevaux vont de plus en plus mal, et il arrive des accidents, il y a des échecs, on abandonne les chevaux parce qu'on n'arrive pas à les mener correctement, et ça devient une galère vu que ce soit un plaisir de travail, parce qu'aussi il faut que ce soit un plaisir de travail pour le meneur, et que ça soit bien accepté par le cheval aussi, quelque part, il y a une notion de plaisir.
Mais c'est compliqué aussi, parce que toi, par exemple, tu es parfois avec deux, trois, je crois même quatre chevaux. C'est pas une relation uniquement avec un seul cheval.
Non, c'est unique. Donc il faut s'adapter à chaque fois au caractère différent des animaux qu'on a. Et dans une attelée, il faut savoir qu'avec celui-là, on va essayer de le décoder et de savoir comment il est. Avec celui-là, il sera complètement différent au niveau caractère. Ça sera un caractère d'équidé, mais avec sa façon en lui de réagir personnelle. Et quand il y en a plusieurs, ben, à chaque fois c'est différent. À chaque fois, il faut se réadapter. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'un meneur de machine ou de tracteur, ben, il va passer d'un tracteur à l'autre. Il a compris comment sont les manettes. Les manettes sont différentes sur celui-là, mais hop, il le conduit. Là, on va passer avec un autre animal et ça peut complètement être différent dans sa façon de réagir, et donc il faut à chaque fois se réadapter et surtout avoir du nez, du feeling pour décoder cet animal, savoir comment il est. Ça reste la difficulté principale pour moi, ce qui fait aussi que tout le monde ne passe pas facilement à mener des chevaux.
Et c'est quoi alors les caractères des équidés? Comment on peut définir ça?
Ben déjà, un équidé, c'est un animal qui est au départ qui est craintif, parce que dans un troupeau en liberté, le cheval n'est pas un prédateur, il est une proie. Donc il y a un gros travail à faire pour le désensibiliser, pour qu'il n'ait plus de crainte d'un certain nombre de choses. Ça, c'est la plus grosse difficulté avec un animal, parce qu'au niveau intelligence, pour comprendre, si on sait, si on connaît les chevaux, la façon dont il faut faire pour qu'ils comprennent, le cheval est plutôt un animal fin, un animal sensible, mais il est aussi craintif et peureux, et il peut avoir des grosses réactions par rapport à ça. Et c'est ça qu'il faut arriver à gommer petit à petit pour qu'il puisse s'adapter à toutes sortes de milieux. Il le fait très bien, le cheval s'adapte très bien, mais certains types de chevaux ou certains chevaux n'arrivent pas forcément à rentrer dans nos schémas qu'on leur a préparés. Ils sont trop craintifs ou ils peuvent être dangereux, et quelquefois ils ne peuvent pas convenir du tout pour un travail qui demande beaucoup de fiabilité et de tranquillité. Et d'autres rentrent très bien dans ces schémas et s'y font très bien petit à petit. D'autres ne sont pas craintifs, certains ne sont presque pas craintifs. Il y a toujours des petites choses dans le dressage quand même à vérifier. Hein. Il faut tout ce qu'ils y passent. Et certains ont dit, par exemple, sur 10 chevaux, ben, il y en a un, c'est clair, il ne passera pas du tout. On ne va pas insister parce que ça sera trop dangereux. Il y en a 7 ou 8, ça va très bien se passer. Puis il y en a un autre, où on sent que ça pourra passer, mais il faudra beaucoup plus de travail pour l'amener à être... tranquille, moins peureux, moins réactif, etc. Voilà.
Mais ce trait de caractère, donc d'être craintif que tu dis, et quelque part correspond à cette phase ou cette période où les chevaux étaient en troupeau et qui étaient des proies, Donc toi, tu dis que ces traits de caractère, c'est quand même beaucoup de générations, hein, que c'est loin, quoi, tout ça. Mais ça reste quand même assez présent.
Ça reste assez présent, mais aussi, d'un autre côté, on a fait, sur les deux siècles derniers ou plus, des sélections pour améliorer des races pour le travail. Et on peut dire, par contre, que les anciens qui élevaient des races en Belgique, en Allemagne, en France, en Scandinavie, pour le travail, avaient fait, par contre, du très très bon travail, parce qu'ils avaient bien amélioré les caractères des chevaux, à la fois la morphologie et à la fois le caractère, pour que ces chevaux puissent être à la fois vaillants, puissants ou rapides, selon ce qu'on leur demandait de faire, et très stables dans leur tête, pour qu'on puisse s'en servir réellement avec, en toute confiance. Toujours en passant par une phase de dressage qui est très importante pour la confiance, pour la relation, tout ça. Et ça, c'est sûr que dans ces races-là, il y a des races qui ont particulièrement un mental très intéressant pour ça, justement. Et ils ont fait du très bon travail. Et on est peut-être en train de reperdre ça parce qu'il y a beaucoup moins de chevaux utilisés au travail. Donc, on fait une sélection de races par rapport à une morphologie, par rapport à des allures, et on oublie de faire la sélection par rapport au mental. Et donc, il peut y avoir plus de déchets actuellement dans les races. On a toujours de belles races. Mais il y a peut-être plus de déchets au niveau caractère parce que la sélection, elle se fait pour la viande, pour d'autres choses. Et on perd un petit peu. Parce qu'avant, je pense qu'il y a un siècle en arrière, il y avait une sélection au niveau mental dans les races qui était vraiment très très bonne. C'est-à-dire sur 50 chevaux, il y en a 49 qui avaient un bon mental. Maintenant, il faut faire attention.
Julia a suivi notre conversation. Elle travaille avec des chevaux dans le maraîchage, dans les Alpes-de-Provence, et a suivi des formations avec Florent Dalloz. À sa demande, Florent est justement venu avec un jeune étalon pour saillir une de ses juments. Cela fait 600 km aller-retour, ce qui pourrait sembler exagéré. Julia explique son choix.
Déjà, je considère notre jument qui est bien faite. Au niveau morphologie, elle est bien adaptée à travailler. Ça veut dire qu'elle tire d'une façon qui va lui faire permettre de tirer pendant longtemps. Et en même temps, elle est assez apte à travailler. Ça veut dire qu'elle peut... Bon, moi, je travaille surtout dans le jardin. Donc, elle fait très bien les travaux que je lui demande. Et donc, là maintenant, elle devient un peu plus âgée, donc j'avais l'idée de la faire un petit que je veux après dresser aussi. Donc chercher un étalon qui peut, d'une côté, garder les bonnes choses que la jument elle a déjà, et aussi améliorer peut-être les défauts qu'elle a, parce que chaque cheval, il a des choses un peu plus adaptées et moins adaptées. Donc là, ma jument, elle est un peu fort en caractère, ça veut dire qu'elle se soumet un peu difficilement au maître. Donc, je cherchais un cheval qui est surtout très très bon dans la tête, très, très facile à mener. C'est pour ça surtout que je choisis ce cheval. Et aussi, que, voilà, au niveau taille, il est un peu moins grand qu'elle. Donc, ça ne va pas faire un poulain qui est encore plus grand, qui mangera encore plus, parce que les chevaux de trait, ça mange. En Provence, c'est un peu limité. Et voilà.
Mais comment ça s'est passé? Parce que toi, tu es en fait, c'est un étalon donc, à Florent, c'est ça? Mais toi, parce qu'on n'a pas dit ça encore, toi, tu es allé deux, trois fois bosser avec Florent ou tu as vu comment on travaille les différentes chevaux chez lui?
Voilà, j'ai fait un stage chez lui et j'ai venu plusieurs fois sur le chantier à lui. Et donc, je pouvais travailler avec ce cheval et voilà, j'étais vachement content d'avoir travaillé avec ce cheval et qui me convenait beaucoup, voilà. Et après, en réflexion, voilà, c'est 300, plus que 300 km quand on le cherche. Mais en réflexion, qu'autour d'ici, j'en trouverai pas un étalon que d'un côté, je pourrais l'essayer au travail. Parce qu'il n'y en a pas tellement d'étalons ici qui vont travailler. Et qui sera bien fait. Donc voilà, c'était pour ça le choix.
Parce que cet étalon, c'est pas seulement un étalon qui a la bonne morphologie et le bon mental pour la reproduction, c'est que c'est aussi un étalon qui a été dressé depuis jeune au travail, qui a d'abord travaillé, qui est très bien dressé, qui est très respectueux, et qui après seulement a eu le droit de faire des saillies. Voilà, donc on peut tout faire avec. Et il est très gentil, il est très doux, ce qui fait que c'est très intéressant pour la reproduction d'essayer de choisir à la fois une morphologie et un très bon caractère en pensant que ça va donner des produits de ce type-là. C'est pas garanti, hein, parce qu'il n'y a pas de garantie à 100%, mais en tout cas, on se donne plutôt, on va plutôt dans ce sens-là que choisir n'importe quel cheval. Voilà.
Ça veut dire qu'on, par rapport à ce qu'on passe à la génération suivante, si on veut, ce qu'on a appris, enfin le cheval a appris, ça, tu penses que dans l'héritage qu'il passe, quelque part, c'est assez fortement là. Toi, tu as remarqué que les petits, par exemple, d'un tel cheval va être assez marqué par ça ou pas forcément?
Quand même, globalement, oui, il y a un certain atavisme et je pense qu'en sélectionnant petit à petit des produits qui à la fois travaillent sont bien faits, on a plutôt des lignées après, derrière, plutôt homogènes. C'est pas garanti à 100%, on est d'accord, hein, c'est la nature, c'est comme ça, il peut y avoir des... c'est bien, mais on essaye de faire ça. Ça serait pareil, par exemple, dans les chiens de berger. Les chiens de berger, si on croise deux bordeurs, ça nous sort un bordeur qui a déjà des aptitudes pour aller au troupeau, ça nous sort pas un chien de chasse. Voilà, déjà, en gros, ben, bon, c'est assez grossier comme exemple, mais bon, voilà. Et là, on essaye d'affiner justement dans ce sens-là. Après, on peut aussi augmenter des défauts qu'ont certains chevaux par rapport à ça, mais sur d'autres points de vue, mais justement, on essaye de... C'est comme ça que se sont fait ces races, hein, petit à petit, en sélectionnant pour améliorer la morphologie, pour améliorer la musculature, l'os et le mental en même temps, qu'on a besoin qu'ils soient très... des chevaux souples et fiables, voilà.
Et donc, le cheval, il a des âges différents? Il a une adolescence, il a un âge adulte et une vieillesse. Et par exemple, le dressage, il va commencer quand et comment ça se passe?
Le dressage, il va commencer... Avant le dressage, il y a déjà une période d'éducation qui peut se faire depuis les quelques jours après la naissance, où on manipule le poulet, où on le licole, où on fait toutes sortes de choses. On l'habitue très tôt à prendre les pieds, à l'éduquer, à ce que socialement, il puisse nous respecter, être avec nous, ne pas être sauvage, tout en gardant son caractère cheval. Voilà. Et puis après, quand il arrive à vers entre 2 et 3 ans, on peut attaquer du dressage, ce qu'on appelle du débourrage, lui faire comprendre les ordres. En gros, lui apprendre à lire et écrire pour qu'il puisse apprendre à travailler. Voilà. Et ça, c'est par étapes. Voilà. Alors, quand ils sont poulets, on fait l'éducation. Après, à 2 ans, des fois, on fait seulement l'éducation à partir de 2 ans, 3 ans. Et à cette période-là, on commence à le débourrer, à lui apprendre les ordres, travailler, tirer un petit peu. Mais c'est des exercices techniques qu'ils font. Et quand ils passent 3 ans, 3 à 4 ans, on commence à les mettre dans du travail, pas trop lourd, adapté aussi. Il faut qu'ils finissent de se muscler, qu'ils finissent leur os, qu'ils finissent de grandir. Et après, ils arrivent à 4 ans, ben, ils sont aptes à faire du bon travail. Il y a plein d'étapes, il faut de la patience. Après, on peut faire beaucoup plus vite, prendre un cheval à 4 ans, en l'espace de quelques mois, le débourrer, l'éduquer. On le fait, quelquefois, on n'a pas eu les chevaux jeunes. C'est des fois un peu plus difficile, et voilà, c'est bien quand ils sont poulains, mais ça ne veut pas dire non plus que tous les poulains vont devenir des bons chevaux de travail, ni que c'est garanti à 5%. On peut, de temps en temps, en trouver un qui est trop créatif et qu'on élimine. Tant pis.
Et l'âge de la retraite?
Bon, alors, l'âge de la retraite, c'est vers 17, 18, 20 ans, voire plus de 20 ans. Ça dépend des chevaux, ça dépend du travail qu'ils ont fait, ça dépend de leur comment ils sont. Certains durent plus longtemps que d'autres. Ça dépend de la dureté du travail aussi. C'est vrai, quand ils ont fait une douzaine d'années de débardage dans du travail qui est quand même violent, qui est dur, et ben, ils ont tendance... C'est pas qu'ils vieillissent moins bien, mais ils deviennent moins souples, plus raides dans les articulations. Ça, c'est un petit peu le défaut du débardage quand ils vieillissent. Mais globalement, on les amène à 17-18 ans au travail. Et puis, je pense que dans l'agriculture, ils peuvent aller à plus de 20 ans. Après, on est obligé d'aménager, de leur faire faire du travail moins dur. C'est clair que j'ai des juments qui ont 17 ans cette année. Je leur demande moins. Je sais que je fais attention. Elles sont sur la fin de leur carrière. Il y en a une, je sais que je ne demande plus du travail à 100%. Je ne l'amène plus sur les chantiers très difficiles. Mais je sais que je peux toujours me servir de son mental, parce que voilà, elle a un mental exceptionnel, elle a l'habitude de tout, elle peut me sortir d'affaires dans des problèmes techniques à côté d'un jeune cheval, voilà.
Tu dis violent pour les chantiers, mais je veux dire, ça dépend, non? Parce que je veux dire, enfin, une des rares fois qu'on t'a vu travailler, c'était en Dordogne. Bon, ça, c'était très plat, et des petits arbres. Mais je veux dire, parfois, il y a des travaux qui sont quand même, disons, plus doux.
Il y a des travaux qui sont plus doux, c'est très différent. On peut sortir un fagot de noisetier, comme on peut sortir des arbres de 3 mètres cubes. Et après, la difficulté technique, c'est le terrain, c'est le cheminement où on doit passer les bois, il y a plein de choses, donc ça peut être facile comme très difficile, avec des lourdes charges, ou quelquefois où on doit atteler 3 ou 4 chevaux, où ça devient dur physiquement, et où ça devient dur à cause des difficultés de pente, de talus, etc. Donc on a tous les cas de figure. Alors qu'en agriculture, c'est beaucoup plus régulier, on trace un sillon, on gratte, on est sur des terrains plats ou en coteaux, on travaille beaucoup plus en souplesse, c'est beaucoup plus régulier, beaucoup plus routinier comme travail, mais en forêt c'est exactement le contraire de ça, c'est-à-dire que c'est pas du tout routinier, ça part dans tous les sens, et il faut à chaque fois contrôler la situation, et que les chevaux s'adaptent. La qualité du cheval en forêt, c'est justement la souplesse, c'est l'adaptabilité, parce qu'il doit passer par tous les terrains humides, terrains mouillés, on doit descendre en rivière, on doit travailler dans la pente, et aussi quelquefois on travaille sur un terrain facile, ben tant mieux, voilà.
Toi, tu connais le cheval, mais aussi pas mal de mécanique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais parfois il faut installer des systèmes de poulies ou des systèmes compliqués pour pouvoir remonter la pente, etc.
Eh bien, on doit maîtriser toutes les techniques forestières que maîtriserait aussi quelqu'un qui conduit un tracteur, c'est-à-dire on doit être capable d'avoir le sens des trajectoires, de savoir avec quoi on attache nos bois, comment on les attache. Quelle aide on va utiliser si c'est pas suffisant d'avoir une simple chaîne, si on doit mettre des poulies, des mouflages pour diviser les charges, des systèmes de... Ça s'appelle, oui, du mouflage avec des poulies pour diviser les charges, diviser par 2, par 3 la charge que 2 chevaux ne pourraient pas emmener. On a des outils hippomobiles pour lever des bois, les lever au milieu, les lever devant, sur des gros diamètres, pour pouvoir les déplacer plus loin et plus longtemps sans que les chevaux forcent, parce que certaines attelées de chevaux devant des gros bois, et même à 4 chevaux, on ne pourrait pas arracher le bois du sol. Donc il faut le soulever. Enfin, il y a toutes sortes de techniques, il n'y en a pas d'ailleurs énormément, il y a beaucoup plus d'outils en agriculture. Beaucoup plus d'outils différents. Nous, on n'a finalement pas un panel d'outils très très large, mais c'est quand même des outils qu'il faut qu'ils soient très solides, très costauds, bien adaptés aussi à ce qu'on fait. Et pour une partie de notre travail, on se sert de ces outils. Voilà.
Est-ce que les chevaux sont polyvalents? Ça veut dire qu'ils peuvent aussi bien travailler en forêt qu'en agriculture, labourée, binée, etc.
Oui, si à chaque fois on leur laisse un petit temps d'adaptation, ils vont être capables de le faire. Un cheval qui travaille en forêt va pouvoir repasser facilement à l'agriculture. Par contre, il va falloir qu'il apprenne peut-être dans certains travaux à marcher très doucement, avoir un rythme moins dynamique qu'en forêt. Et qu'il apprenne à être très précis, à faire un travail très routinier, donc être très régulier. Le contraire, un cheval qui va travailler dans la terre, dans la vigne ou dans les binages ici, quand il va repasser en forêt, il aura beaucoup de choses par contre à apprendre. Et le travail sera beaucoup plus irrégulier, beaucoup plus heurté, il faudra qu'il s'adapte à ça. Et certains chevaux s'adaptent moins à ce genre de choses. Certains oui, certains non. Après, si on passe des chevaux à... Ils peuvent aussi passer à des transports à l'attelage. Après, si on veut faire de l'attelage rapide, il y a certains gros chevaux de débardage qui sont moins aptes à se déplacer rapidement qu'un cheval plus léger. C'est pas le même type d'effort, voilà. Il y a un travail qui est plus sur de la puissance et un autre qui est plus sur de l'endurance, du déplacement plus ou moins long et plus ou moins rapide, parce qu'après on peut travailler sur des rythmes différents, sur le trot, etc. quoi. Ça devient très différent.
Est-ce que entre débardeurs, vous avez pas mal d'échanges d'expériences, de techniques, est-ce que vous discutez de tout ça, ou finalement, ou est-ce que chacun a un peu ses méthodes qu'il a trouvées pour lui-même, et puis voilà.
Bah, disons qu'au départ, le métier il est parti avec un peu chacun dans son coin, ça c'est sûr. Et petit à petit, quelquefois on s'est rencontrés par hasard, et petit à petit, il y a un certain nombre de personnes là-dedans qui ont eu envie de se connecter, d'être en réseau, pour partager les expériences, pour s'encourager déjà, tout simplement. Partager les expériences au niveau des chevaux, au niveau du matériel, au niveau de la forêt, et se rassembler pour essayer de développer, déjà tout simplement, développer le métier dans le sens, le faire connaître et le faire reconnaître, qu'il soit accepté dans le milieu forestier comme un vrai outil de travail. Mais ça veut dire aussi que derrière ça, les gens, faut que ce soit des gens compétents, parce qu'on ne peut pas faire ça en bricolant et dire on veut faire reconnaître le métier. Et donc on a eu plein d'échanges à ce niveau-là. D'abord, on est devenus copains ou potes avec certains, et ensuite, on a décidé de monter des réseaux. Là, entre autres, on a monté un groupement de débardeurs qui est un peu sur toute la France. On a même un collègue suisse, et c'est ouvert à d'autres gens ailleurs. On travaille en réseau, entre d'ailleurs ce groupement de débardeurs, mais aussi dans d'autres réseaux, parce que moi, je travaille aussi avec des amis qui sont aussi dans le groupe de Longo, mais qui sont sur Trénas, ou plein de choses comme ça. Voilà, il y a plein d'échanges, en fait, et on essaye d'en faire beaucoup. Et d'intégrer des nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans notre réseau, qui s'intéressent, qui ont envie d'évoluer en technique, qui ont envie de voir des choses, et quand on peut les intégrer, on les intègre. Et c'est aussi un échange humain. Il y a aussi ça aussi, il y a les rencontres humaines là-dedans qui sont importantes, quoi. Parce qu'on est aussi souvent sur la même philosophie, sur du travail, en pensant que c'est une énergie d'avenir, qu'on va pas toujours utiliser du pétrole, qu'il y a tout un état d'esprit là autour.
Moi, j'avais encore deux questions. C'est d'un côté par rapport aux races avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que donc il y a des races qui vont mieux en forêt ou mieux pour l'agriculture, ou est-ce que ça naît maintenant les races de chevaux chez nous en Europe? Et la deuxième question que j'ai, c'est aussi le mental de l'homme quand il travaille avec le cheval. Qu'est-ce que ça lui demande? Quel état d'esprit il doit avoir pour pouvoir faire travailler un cheval?
Alors, pour commencer par les races, la plupart des races qui avaient été développées en France, il y en a au moins 7 ou 8 de chevaux de trait, il y en a en Allemagne, il y en a ailleurs, ils sont aptes à ces travaux. Certaines races mieux que d'autres, parce que justement il y a des différences de morphologie et certains chevaux correspondent mieux à du petit travail agricole ou certains à du déplacement sur route, parce qu'ils sont plus nerveux, plus rapides, et d'autres plus puissants correspondent mieux à des gros travaux forestiers ou certains gros travaux agricoles. Ça, c'est sûr. Alors, dans les races françaises, dans nos collègues débardeurs, on utilise un peu toutes les races, mais il y a une race qui revient souvent, c'est justement la grande famille de l'Ardennais, Ardennais, très belge, très du Nord, qui ont très très bon mental et des chevaux assez puissants. Après, d'autres utilisent les percherons. Nos collègues qui sont en Bretagne utilisent les bretons. Il ne faut pas leur parler d'autre chose. Ça, c'est... Mais ils ont aussi des bons chevaux. Ils les ont choisis aussi, voilà. Donc, il n'y a pas de discrimination par rapport à ça, même s'il y a une race qu'on voit revenir souvent, utilisée. Alors ça, le mental d'humeur, ça, c'est très important. Et c'est justement pour la raison pour laquelle il faut aussi se former, apprendre à connaître le comportement des chevaux. Il faut aussi apprendre, il faut que les meneurs apprennent à avoir une attitude. Il ne faut plus avoir la réaction qu'on peut avoir en parlant entre nous. Il faut se réfléchir par rapport au cheval. Donc on doit travailler une attitude sur nous-mêmes pour être derrière les chevaux. Il faut être à la fois observateur, il faut être concentré dans ce qu'on fait, être très déterminé. Il faut être très centré en fait, il faut être assez zen. Il ne faut pas montrer ses humeurs, voilà. Avec le cheval, il faut lui donner confiance. Donc, il faut pas non plus avoir d'appréhension. Il faut être sûr de soi. Quand on dirige un cheval et quand on part dans une technique avec un cheval aussi bien de dressage que de travail, il ne faut pas douter. Il faut être sûr de soi.
Parce que le cheval peut sentir ce qu'on doute. Cheval,
c'est une éponge. Il sent tout ça. Donc, il faut lui donner confiance. C'est-à-dire, il faut être juste derrière lui. Donc il ne faut pas douter de ça. On peut douter sur d'autres choses dans la vie, mais au moment où on est derrière un cheval, on ne doit pas douter. Il y a plein de fois où on doute ailleurs, on ne sait pas où il faut aller. Mais derrière un cheval. Et quelquefois, ça arrive qu'on a un cheval très difficile, par exemple dans le dressage, dans le débourrage, qui nous remet complètement en cause, où on perd complètement nos moyens, où tout d'un coup on peut être remis en cause complètement par un cheval. Où on se dit, mais je suis un débutant, je ne sais plus comment faire. Et ça nous déstabilise complètement. Quelquefois, il faut attendre un peu, le mettre de côté et reprendre sa confiance avant de repartir avec ce cheval. Parce que si on doute derrière lui, c'est foutu.
Quelqu'un qui voudrait apprendre le métier, qu'est-ce qu'il doit faire? Où est-ce qu'il peut s'adresser?
Il y a quelques centres de formation en France et il peut s'adresser aussi tout simplement par quelques organismes ou associations qui font de la formation. Mais il doit toujours passer par, que ce soit dans un centre de formation, une association qui fait de la formation ou des professionnels, il doit toujours s'adresser à des gens qui ont du métier, qui ont de la bouteille, comme on dit, qui maîtrisent leur sujet. Faut pas qu'ils partent à l'aventure comme ça, qu'ils essayent le premier venu. Faut quand même, il y a quand même un petit tour à faire pour voir avec quelle personne il a affaire. Et puis bon, il y a des références justement en France chez certaines personnes dans notre groupement pour aider à donner des indications. Mais il faut absolument effectivement se former et pas n'importe où, pas n'importe comment.
Mais par exemple, quand tu travailles toi avec 2, 3, 4 chevaux, c'est un chantier un peu plus compliqué. Là, tu prends des apprentis ou des collègues hein, ou...
Oui, c'est assez rare que je sois seul sur un chantier à 4 chevaux. En général, dès qu'il y a au moins 3 chevaux, on est 2 meneurs. C'est-à-dire qu'on mène chacun 1 ou 2 chevaux, chacun 2 chevaux. On a même des fois que sur des chantiers, on a eu 5 ou 6 chevaux. Et quand on a besoin, on reforme des attelés. Voilà. Et on est au moins 2 meneurs dans ces cas-là. Parce qu'on peut, par exemple, travailler avec chacun une paire de chevaux. Et quand on a besoin, on rassemble, on prend un cheval de l'équipage d'à côté pour mettre 3 chevaux. C'est toujours un meneur qui mène une attelée. On n'est jamais 2 à mener une attelée. Mais sur le terrain, oui, on essaye de rassembler justement sur le terrain, dans les chantiers importants en volume ou importants en techniquement difficiles, on essaye toujours de travailler en équipe avec plusieurs bûcherons, travailler avec au moins 2 meneurs, quelquefois 3 meneurs. Pour avoir de la souplesse, pour pouvoir s'adapter, pour avoir suffisamment de puissance de traction, rassembler assez de chevaux, et pour les manœuvres, faire une manœuvre à deux sur un bois, c'est des fois plus simple et plus efficace à deux. Donc on essaye de remettre, contrairement aux travaux forestiers classiques, ou j'allais dire aux travaux agricoles, où des personnes tout seules travaillent sur des énormes machines et couvrent ou des hectares, ou bien des volumes de bois, nous on essaye de retravailler en équipe, de remettre du social en forêt. Voilà.
Mais ça donne des occasions pour les apprentissages, j'imagine aussi, parce qu'on peut prendre quelqu'un qui ne va pas peut-être mener trop, mais qui va bien observer.
Oui, je n'avais pas fini de répondre à cette question. Effectivement, y a des gens qui peuvent venir se former et donner un coup de main sur les chantiers. C'est-à-dire, d'une part, on leur fait part d'une expérience, d'une façon de mener les chevaux. Ben eux, ils essayent de pratiquer, nous donner un coup de main en contrepartie et d'apprendre, de voir, d'évoluer. Voilà. Oui, ça se fait très bien aussi. Ça m'arrive souvent aussi d'être seul, mais avec une personne en formation.
Mais peut-être tu pourrais nous donner les coordonnées de cette association, pour le nom déjà. S'il y a des gens qui voudraient prendre contact ou qui s'intéressent à ce métier. Mais à part ça, je ne sais pas s'il y a des choses que tu voudrais ajouter, qu'on n'a pas mentionné, que tu trouves important?
Non, je peux donner alors les coordonnées de notre groupement de débardeurs, d'artisans professionnels débardeurs. C'est le groupement qui s'appelle Débardage Cheval Environnement. Alors si vous voulez le trouver sur un site internet, c'est www.debardage-cheval-environnement.com. Mm-hmm. Et aussi une association dont je fais partie qui s'appelle l'association Rhône-Alpes Traction et Énergie Animale, qui est donc centrée sur les départements plutôt du sud, Rhône-Alpes, et qui elle aussi à essayer de rassembler des gens, à la fois des professionnels et à la fois des gens qui veulent démarrer une activité, et qu'elle serve un petit peu de palier pour faire rencontrer tous ces gens-là. Elle s'occupe aussi de formation, c'est-à-dire qu'on fait des stages traction animale, tout simplement pour apprendre à conduire un cheval. Ça servira à l'agriculture, à toutes sortes de choses. Après, on fait des stages plus spécifiques forestiers pour des gens un peu plus confirmés. Et il y a des stages travail de la terre, travail dans la vigne, travail en maraîchage, labour, etc. Il y a aussi une personne qui fait de l'éthologie, c'est-à-dire comportement équin. Et aussi, on fait aussi un stage qui est encadré aussi par un maréchal ferrant professionnel. Soins et entretien du pied, dépannage maréchalerie, pour que les gens qui travaillent avec les chevaux soient aptes de comprendre quelque chose autour du pied du cheval et puissent se dépanner dans l'entretien. Voilà, principalement sur ces choses-là. Et ça, cette association, donc je le redis, elle s'appelle l'association Rhône-Alpes Traction et Énergie Animale. Et on la trouve aussi sur un site qui s'appelle 3xW, si je ne me trompe pas, rhonealpesta.net ou quelque chose comme ça.
Bon, mais merci Florent.
C'était des chevaux et des hommes. Un entretien avec Florent Dalloz, débardeur à cheval. C'était une émission dans la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières.